Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics et qui a publié « Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation ». C'est publié au Seuil. La grande idée, c'est qu'on a besoin de tous les talents, y compris féminins, dans les professions d'ingénieurs, notamment dans notre pays. Ronan Lemoyle, je vais quand même présenter tout le monde ce coup-là, qui est fondateur d'Épopée Gestion, un fonds d'investissement régional. Et puis Robin Rivaton, le directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, auteur de Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Quelle injustice d'augmenter les retraités de 5,3% et de refuser quoi que ce soit pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on va voir. Hein. Pour l'instant, ils sont en grève aujourd'hui pour exiger une hausse du point d'indice après une réunion qui ne s'est pas très bien passée avec leur ministre de tutelle il y a maintenant quelques jours. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire ici que la BCE doit baisser ses taux tout de suite maintenant ? Ronan.
Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, parce que je pense que pour deux raisons. La première, c'est que techniquement, en termes d'inflation, on y arrive, on va dire. Et puis
on y arrive, mais on n'y est pas.
Oui, mais on sait qu'il y a un effet de traîne qui est relativement long. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme sur un bateau. Et si on affale les voiles juste à 2 mètres du quai, en général, on se prend le quai.
Je suis d'accord.
Donc, assez rapidement.
Mais la BCE n'a pas envie de se louper. Elle n'a pas envie de donner le signal et de dire c'était pas le moment.
Parce qu'il y a toujours peur en fait, que les marchés anticipent. Bon, bref. Donc, en tout cas, je pense que techniquement parlant, il y a un sujet. Et alors, sur le terrain, il y a un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que ce qu'on observe sur le terrain, nous, on le voit. Quand je dis sur le terrain, c'est côté entreprise ou même côté gros investisseurs, tout le monde attend l'arme au pied, la baisse des taux. C'est-à-dire que plus personne ne fait rien. Les projets s'arrêtent.
Okay, ça fige le truc parce que tout le monde attend.
Et en fait, on est vraiment là-dedans. Nous, on le voit tous les jours aujourd'hui.
Avril, mai, juin, vous tenez 3 mois ?
3 mois, oui, mais c'est vrai que j'observe depuis maintenant 2 mois et demi, 3 mois, un ralentissement très fort des prises d'initiative.
Ah, d'accord.
Très
fort. On attend la baisse du prix de l'argent pour continuer.
Ouais,
quoi.
Je pense effectivement.
Mais non, mais ça se comprend tout à fait. Baisse des taux, c'est maintenant. Je ne sais pas si Xavier a un avis. Robin, tout le monde me dit qu'il faut y aller maintenant.
Hein. Oui, pas d'avis spécifique. Effectivement, l'inflation a l'air mieux maîtrisée. Le chômage.
Ce sera au printemps, de toute façon. Printemps, a dit François Villeroy de Gallo sur les ondes de BFM Business, en rappelant que le printemps était une saison. Ouais. Donc ça allait jusqu'au mois de juin.
Et avec des effets quand même qui font que l'affaiblissement de l'euro peut aussi être en jeu.
Affaiblissement
de l'euro dit augmentation de la facture énergétique, donc dit remontation de l'inflation. Donc il y a quand même des mécanismes globaux aujourd'hui où on est quand même en concurrence avec une zone de l'art qui est extrêmement forte de tout point de vue. Et donc il faut faire. Je pense que c'est les banquiers centraux font très attention à ces sujets.
Ça explique pourquoi le taux de change qui aujourd'hui sert de frein à la prise de décision en se disant on ne peut pas se permettre d'avoir un euro qui perd trop de terrain face au dollar. Sinon, on a forcément un phénomène inflationniste.
On ramène de l'inflation énormément. Okay. Et ça, c'est un énorme sujet quand même pour la zone euro, dont on a vu que dans une période de dépendance, d'essayer de sortir de la dépendance du gaz russe, on est prêt à acheter l'énergie étrangère, notamment le gaz nord-américain, à des prix très élevés. Si en plus on se prend des parités de change qui sont défavorables, on va réimporter beaucoup d'inflation. Donc c'est notamment en vue de l'hiver 2024. Donc c'est forcément quelque chose que doit prendre en compte la Banque centrale.
Normalement, une politique monétaire n'est pas là pour servir de politique de taux de change. Mais dans la réalité, c'est bien ce qui se passe, évidemment. Et donc, la Banque du Japon qui prend cette décision cette nuit de remettre ses taux d'intérêt directeurs en territoire positif. À peine positif, ils étaient à peine négatifs, ils deviennent à peine positifs. Quelle est l'analyse que vous faites de ce changement de braquet de la part de la Banque du Japon ? Le Japon étant un pays tout à fait particulier, quand même.
Oui, je pense que c'est vraiment l'exception monétaire.
Oui, c'est le pays qui peut vivre avec 250% de dette publique face au PIB et ça lui pose pas de problème. C'est un cas, le Japon.
Ce qui est très intéressant, c'est que si on prend un peu de recul et qu'on regarde la stratégie des trois flèches de Abe, parce que les taux d'intérêt négatifs.
Les Abenomics, là.
Exactement, les Abenomics, c'est les trois flèches. C'est comment je vais essayer de restimuler le Japon après deux décennies perdues. En réalité, ça a plutôt pas trop mal marché. marché. Ça a plutôt pas trop mal marché, c'est-à-dire que le pays commence à réinvestir. Vous avez par exemple plein d'investissements dans les semi-conducteurs qui sont en train de se passer au Japon. Vous avez une base industrielle et manufacturière qui a bien tenu. La bourse Tokyo Heat est remontée à des sommets puisqu'elle commence à réattirer des investisseurs étrangers. Le pays s'est ouvert à la manœuvre étrangère, ce qu'il n'avait jamais fait depuis. Il y a maintenant 2 millions de travailleurs étrangers dans le pays, ce qui était.
Il y a 2 millions de travailleurs étrangers au Japon.
300 000 il y a 10 ans, donc vous voyez qu'ils ont vraiment cassé un barrage.
Fameuse tradition japonaise de dire non à l'immigration.
Et donc c'est un pays qui est en train de redémarrer plutôt pas mal, et donc c'est intéressant de voir effectivement qu'il va pouvoir normaliser sa politique monétaire après.
On est loin de la normalisation. Il continue à acheter massivement les obligations publiques.
Mais de moins en moins quand même.
Oui, de moins en moins.
C'est quand même, c'est intéressant de voir qu'à des moments on peut utiliser des recettes qui paraissent totalement hétérodoxes du point de vue de la politique monétaire, parce qu'elles étaient hétérodoxes, alors dans une économie fermée avec plein de particularités. Mais ça va être un exemple, en tout cas ça va devenir un exemple de ce qu'on peut faire quand on est dans une situation un peu difficile.
Il n'y aurait pas aussi l'idée dans la banque, enfin chez le banquier central japonais d'essayer de faire de jouer justement sur les taux de change pour préserver l'épargne des Japonais?
Alors après, en plus, la Banque Centrale du Japon, elle est cotée. Donc en fait, vous avez, elle est cotée pour moitié, elle est cotée, la moitié est détenue par l'État. Et donc, elle doit rendre de l'argent, elle. Ça rejoint des sujets de Banque Centrale qui, elles, perdent de l'argent. C'est peut-être pas grave, puisque c'est le Trésor Public qui en est l'actionnaire à 100%. La Banque du Japon, elle peut pas se permettre d'avoir trop de pertes, puisque sinon, elle rend pas d'argent à ses actionnaires, personnes privées, comme vous et moi, qui pourrions être détenteurs des titres de cette banque.
La politique monétaire japonaise, ça vous...
Non, moi, rien, juste un petit point seulement. Ils jouent un peu sur le fil de rasoir aussi, parce qu'ils ont un endettement, je crois, de mémoire qui est assez élevé. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils jouent très sensiblement le curseur, parce que pour le coup, quelques dizaines de points de base de décalage, ça peut vite faire monter la dette à des niveaux élevés. Alors, encore une fois, je critique pas, parce que je partage ce que tu viens de dire à l'instant, mais c'est vrai que le petit bouton, il est du chauffage, là, il est à manier avec précaution chez eux.
Le revival japonais, en fait, vous nous décrivez le revival japonais. Bon, à côté de ça, c'est quand même l'un des pays les plus vieux du monde. Et
S'ouvre un peu à l'immigration, c'est un pays qui est éminemment attractif. Il y a une qualité de vie qui est incroyable, donc c'est un pays qui attirera beaucoup, beaucoup de talents. Après, est-ce qu'ils ont cassé cette barrière mentale? C'est une question.
On évoquait le Japon avec une banque centrale qui est en partie cotée. On n'a pas une banque de France qui est cotée, mais qui affiche, Ronan Le Moal, 12 milliards d'euros. Alors, ils sont allés puiser dans leurs réserves pour éponger cette perte et afficher un résultat à l'équilibre. Mais c'est lunaire d'imaginer qu'une banque centrale se retrouve dans le rouge de 12 milliards d'euros. On se dit, finalement, c'est pas une banque comme les autres. Une banque centrale ne fait pas faillite.
Elle peut être
en fonds propres négatifs. 12 milliards de pertes, c'est pas grave. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne est dans le rouge également en 2025.
Ça m'a ramené d'ailleurs à mes vieux souvenirs de banquier d'il y a une vingtaine d'années, parce qu'on appelait le FRBG, le fonds de risque bancaire général, qui était quelque chose qu'on dotait tous les ans par le résultat et qu'on pouvait reprendre de temps en temps. Et là, il y a le fonds de risque général, donc qui est l'équivalent et qui existe toujours pour le coup.
Le FRG.
Côté Banque de France, et qui a été repris à hauteur de 12 milliards pour éponger ses pertes, dont il faut comprendre qu'elles sont liées à un fait mécanisme très simple. C'est qu'en fait, les banques qui placent leur argent auprès de la Banque de France, qui en a un certain nombre, l'ont placé à un taux plus élevé, parce que les taux ont monté, donc ça n'échappe à personne. Sauf qu'en face, le replacement de cet argent fait par la Banque de France sur des portefeuilles obligataires était fait sur des portefeuilles obligataires qui ont 2, 3, 4, 5, 10, pas 10 ans, mais 5, 6 ans, et qui ont donc été à des taux, eux, plus faibles. Donc en fait, il y a un mismatch, qu'on appelle ça, entre l'argent qu'elle a versé, les intérêts qu'elle paye, et les intérêts qu'elle touche. Donc ça pourrait simplement interroger sur la politique de gestion de bilan de la Banque de France. Elle qui demande souvent à ce que l'ALM soit bien fait, comme on appelle ça dans les banques, là, il y a un petit sujet, manifestement.
Mais c'est une banque centrale dans le rouge à ce niveau-là, c'est pas grave.
En fait, là, pour le coup...
Parce que ça n'émeut jamais personne.
En fait, ce qui n'est pas grave, c'est que si on fait le parallèle avec les banques de détail qu'on connaît par ailleurs en France, elles ont connu dans les proportions diverses des mécanismes symétriques un peu de même nature. C'est-à-dire qu'effectivement,
elles ont des portefeuilles
dans l'effet inverse
avec de l'obligataire.
Donc en fait, c'est un mécanisme financier un peu normal. Simplement, on pourrait se demander si la politique de gestion de bilan finalement d'une banque centrale ne devrait pas être plus précautionneuse encore, de sorte qu'elle s'immunise contre ce risque-là. Alors bien sûr, si elle s'immunise, elle gagnera moins d'argent dans certaines configurations de la courbe de taux. Par contre, elle sera plus protégée si jamais la courbe de taux bouge rapidement. C'est ça la question que ça peut poser. Mais sinon, on va dire que c'est un mécanisme financier qu'on a vu dans la banque de détail symétriquement par ailleurs. Le niveau de perte n'est pas abyssal. C'est repris sur les fonds propres. Donc c'est ces fonds propres qui financent. Hein. C'est pas du tout le contribuable qui met contribution. Mais c'est vrai que ça pose une question sur la politique gestion de bilan.
Vous voyez, c'est un sujet qui est assez dur à comprendre en fait. comment fonctionne une banque centrale, pourquoi ne peut-elle jamais faire faillite.
Parce qu'on est là.
Ouais. Xavier, oui, bah, à la fin, c'est quand même l'État français qui contrôle la banque.
Ah, c'est vraiment too big to fail.
Oui, pour le dire très simplement, les banques centrales, en principe, pourraient s'auto-recapitaliser, puisqu'elles peuvent faire de la création monétaire. Donc, au final, ce qui compte, c'est la crédibilité de la banque centrale. Si je crée des fonds propres négatifs à n'en plus finir, je crée de la monnaie, je vais finir par perdre ma crédibilité, l'inflation va être élevée. Donc, c'est ça, au final, le juge de paix. Et donc, différentes banques centrales ont différentes réglementations pour éviter que ça se produise, y compris des cas où c'est le contribuable qui doit payer quand il y a un mismatch sur les taux d'intérêt perçus et les taux d'intérêt payés, comme tu le décrivais très bien. Et donc, par exemple, c'est le cas aux États-Unis où le Trésor américain doit payer pour recapitaliser en partie la réserve fédérale américaine. Pour l'instant, c'est pas des montants astronomiques, donc ça reste sous contrôle, mais il y a a priori une limite qui a trait à la crédibilité de la politique de la Banque centrale.
C'est toujours le même sujet. Ouais. Tant qu'on a confiance dans la monnaie, tout va bien. Et si la confiance dans la monnaie s'en va, c'est là que les choses se mettent. Vous vouliez... On n'avait pas beaucoup d'actu aujourd'hui, très franchement. Hein. Et donc, je vous avais demandé en arrivant si vous aviez des idées de sujets qu'on pourrait évoquer dans l'actualité économique du jour. Vous m'avez alerté sur un point que je n'ai pas vu dans l'actualité récente, Robin Rivaton, qui concerne la production des panneaux solaires en Chine. Et donc, que s'est-il passé ? Racontez-moi. Parce que j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant.
Non, mais c'est vrai que quand le leader allemand du panneau solaire fait faillite ou vire la moitié de ses effectifs, on se dit, bon, voilà, ça devait être un petit acteur sur le marché mondial. Quand c'est le numéro 1 chinois, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus important. Donc, effectivement, Longi, qui est le numéro 1 du panneau solaire chinois, qui est basé à Xi'an, en train de licencier un tiers de ses 80 000 employés. Donc, c'est quand même assez massif. Et la raison est toute simple, hein, c'est que il y a eu une explosion de l'offre, de la capacité de production des panneaux solaires qui a fait que les prix ont été divisés quasiment par deux, hein, là en l'espace d'un an. C'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même assez important. Alors la demande suit, hein, parce que quand vous avez des prix qui divisent par deux, la demande suit, mais pas aussi vite que toute cette capacité d'offre supplémentaire. Et donc vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en phase de restructuration. Le secteur en Chine, il y a plein de boîtes qui sont en train de fermer, qui sont en train de se restructurer, de grandir. Et je trouve que c'est absolument intéressant parce que ça montre à quel point on a beaucoup entendu après la crise du Covid et donc l'inflation qui en est montée, que l'inflation était là, la déflation était terminée, que grosso modo on aurait toujours une inflation qui serait au-dessus des 3 ou 4% maintenant. En réalité, on voit bien qu'il y a plein de produits qui sont absolument essentiels dans nos vies, qui continuent d'avoir des trajectoires éminemment déflationnistes. C'est le cas du panneau solaire que vous décrivez, c'est le cas des batteries, ça va être le cas des puces informatiques avec la dernière qu'a sorti Nvidia, qui nous annonce qu'elle est 25 fois plus puissante que la précédente. Donc on voit bien qu'on a, et c'est une très bonne chose, je veux dire, il faut s'en féliciter, mais il ne faut pas se féliciter des personnes qui ont été licenciées malheureusement en Chine, mais il faut se féliciter de cette course déflationniste, cette course au progrès qui continue et qui fait que elle va rendre quand même nos vies toujours plus agréables. Et parce qu'on a des produits qui continuent d'être fabriqués à des coûts qui sont, quand je dis divisé par deux des produits d'une année sur l'autre, ça paraît quand même assez incroyable. Ça veut dire que l'entreprise a fait des gains de productivité, a fait des choses qui sont très positives.
L'entreprise chinoise.
Oui. C'est plutôt un message. Ouais, alors effectivement, c'est une entreprise chinoise, c'est pas une entreprise européenne. Peut-être. Mais on a quand même besoin de panneaux solaires partout dans le monde. Vous n'avez pas non plus, essayer de se dire que. Donc, ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très positif. C'est qu'il y a encore énormément de déflation possible dans l'économie mondiale par le progrès technologique. Et donc, j'achète pas du tout cette idée de dire que l'inflation va revenir à des niveaux, va toujours se maintenir à des niveaux très élevés.
Alors certains vous diront que c'est le moment de se protéger justement contre la concurrence venue d'Asie. Je me tourne du coup vers vous, Xavier Jean-Ravel, parce que ce sujet sur le libre-échange, qui est devenu vraiment un sujet de crispation, notamment depuis la crise agricole, et puis alors là, on a eu le débat sur le Mercosur. Faut-il aller jusqu'au bout de l'histoire du Mercosur, qui traîne depuis plus de 20 ans tout de même. C'est quand même une histoire. Ça a été signé en 2019, je crois. Mais ça remonte au début des années 2000. Est-ce qu'il faut aller ou pas jusqu'au bout de cette histoire de Mercosur ? Donc la France a politiquement clairement pris une position qui est de dire dans les termes actuels, non. Là, on va voter sur le CETA. Alors c'est un vote un peu hypocrite parce que le CETA commercialement est en vigueur depuis 2017. Ça fait des années que ça tourne. Alors il y a quelques aspects qui n'ont pas été réglés en termes de ratification qui concernent la sécurisation des investissements des entreprises ou encore les organes de règlement des différends, c'est-à-dire le système, un système d'arbitrage. Quelle est votre position sur le libre-échange ? Moi, si j'écoute Robert Rivaton, je dis vive le libre-échange. Et pourtant, aujourd'hui, politiquement et de manière un peu intuitive, c'est plus dans l'air du temps d'envoyer comme message aux opinions publiques, on ne vous inquiétez pas, on va se protéger.
Bon, question large et très très complexe.
Ah mais je vous laisse on partir.
Pour faire les liens avec un peu ce qu'on disait juste avant, le libre-échange est quand même essentiel pour tous les sujets liés à l'innovation. Alors, Robin avait son exemple sur les panneaux solaires. Si on réfléchit au cas français, par exemple dans l'aéronautique, on a 95% des appareils vendus hors de l'Hexagone. Donc, pour innover, il faut avoir accès à des marchés très très vastes. Et donc, se retirer du libre-échange, c'est... ce serait vraiment, pour un pays comme la France, très 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 difficile. Après, on peut envisager ça au niveau européen, plutôt qu'au niveau mondial. Déjà là, ça pose plein de questions, parce que le marché unique européen, en fait, il est segmenté de plein de manières, notamment pour les jeunes entreprises, les start-up qui font face à des réglementations différentes dans cet espace européen. Donc, la France, l'Europe sont quand même dans une situation assez différente par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, qui ont un marché intérieur beaucoup beaucoup plus vaste. Et donc, le premier point que je mettrai en avant, c'est réfléchir... aux enjeux pour l'innovation. Et donc, rester inséré dans la mondialisation, plaider pour l'expansion des marchés, c'est très important pour préserver notre capacité d'innovation. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, tout est loin d'être rose. Il y a des sujets liés aux dépendances, aux vulnérabilités. Ça peut être des dépendances technologiques, comme les semi-conducteurs, comme les principes actifs de médicaments. Mais ça, c'est plutôt un enjeu de ciblage, où on dit, voilà, voici une liste de produits dont on considère qu'ils sont à la fois vulnérables, parce qu'il y a un petit nombre de producteurs extra-européens, et qui sont stratégiques. Peut-être certains produits sont vulnérables, mais on considère qu'ils ne sont pas stratégiques, donc on se permet d'avoir cette vulnérabilité. Et dans d'autres cas, on veut en revanche réduire la vulnérabilité. Ça peut être fait de différentes manières, y compris parfois avec des vulnérabilités réciproques, par exemple sur les semi-conducteurs. En Europe, on a le plus grand producteur de machines utilisées pour faire les semi-conducteurs à Taïwan. Et le troisième aspect, donc ce deuxième aspect, c'est quelque chose sur lequel on travaille un peu, mais pas systématiquement. Il y a la Commission européenne qui parle d'autonomie stratégique ouverte, qui a fait des travaux sur les matériaux critiques, mais on n'a pas d'approche systématique plus large, et ce n'est pas non plus le cas en France, où on dirait, voici une liste de produits dépendants, vulnérable. Ce qu'on peut.
On a fait des listes de produits stratégiques.
On a fait des listes de produits stratégiques. Il y en a d'ailleurs plusieurs, y compris une du Conseil d'analyse économique sur laquelle j'ai travaillé. Il y a d'autres listes un peu différentes. Mais à date, il n'y a pas d'ambition claire de ramener cette liste à zéro. Donc, ça, c'est un truc vraiment important. Et le troisième élément, c'est les questions d'inégalité, de perdants et de gagnants. Et donc, sur chaque sujet d'ouverture commerciale, par exemple, sur le CETA, beaucoup disent qu'il y a un gros problème sur l'importation de viande bovine. Il va y avoir une concurrence déloyale avec les producteurs au Canada qui utilisent des antibiotiques, qui utilisent des farines animales, des pesticides qui ne sont pas autorisés en Europe. D'autres disent non, en fait, on peut faire respecter ces réglementations. Donc il y a un débat sur en fait, quel serait vraiment l'effet. Donc depuis 2017, en fait, l'importation de viande bovine du Canada n'a pas augmenté, ce qui donne plutôt raison à ceux qui disent que la réglementation est respectée, mais il y en a d'autres qui disent que ce serait différent une fois la ratification complètement aboutie. Et de l'autre côté, il y a des producteurs, par exemple le fromage, où on a eu une hausse de 60% des exportations de fromage vers le Canada depuis 2017. Donc vous avez forcément des gagnants et des perdants.
Et il y a toujours des gagnants et des perdants dans un accord de libre-échange.
Ouais.
Voilà. Et donc c'est un choix.
Et donc c'est un choix et en tout cas je pense qu'il y a un agenda innovation et un agenda résilience, réduction des vulnérabilités qui sont très clairs et ensuite un agenda beaucoup plus compliqué sur gagnant-perdant et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les perdants ne perdent pas trop.
Alors je comprends votre raisonnement, la complexité également de votre raisonnement, je suis persuadé qu'il y a, si on prenait un panel de Français, ils ne seraient pas de votre avis parce qu'ils seraient très sensibles à l'article que j'ai lu dans les Échos il y a 2-3 jours, je crois que c'est un producteur de panneaux solaires, Robin, en France, qui dit, je suis obligé d'arrêter. Parce que moi, je ne tiens pas face à la concurrence des produits chinois. Voilà. Et donc ça nourrit cette espèce de désir de protection, qui a toujours abouti au même résultat quand on fait du protectionnisme à l'état pur, c'est que ça a un effet, pour le coup, inflationniste, et généralement, à la fin, c'est le consommateur qui paye. Réaction, là, sur l'histoire du libre-échange, qui continue aujourd'hui à être un sujet éminemment politique, puisque elle est dans une posture quand même très politique, même si le vote du Sénat, globalement, tout le monde s'en fout, menace de s'opposer à la ratification du CETA dans son vote de jeudi.
Ça, c'est un sujet qui est effectivement éminemment complexe. Pour le résumer, en tout cas, moi, ce que je pense de ce point de vue-là...
Mais il est souvent lu avec une extrême simplicité.
Pour le ramener, je pense, à des choses simples, je pense que sur le sujet de l'innovation, la réindustrialisation, etc., je pense qu'il ne tient, entre guillemets, qu'à nous de faire les investissements qui vont bien, l'énergie, pour justement, pas demain matin, mais dans les années qui viennent, réussir pour une partie, c'est quand même un des grands enjeux de l'Europe de demain et de la France, et on en a parlé souvent, de dire il faut réouvrir des usines en France, il faut recommencer à innover, il faut recommencer à investir. Et ça, c'est une manière indirecte, à moyen, long terme, effectivement, je ne sais pas s'il faut dire de se protéger, mais en tout cas d'être en situation de compétitivité. Alors, ça pose plein de questions, mais tant qu'on n'attaquera pas le sujet, on n'y arrivera pas. Donc, on a tertiarisé énormément l'économie européenne et française. Si on veut, effectivement, demain échapper à trop de concurrence des autres, et notamment des Chinois, il faut réindustrialiser nous-mêmes. Ça, je pense, c'est un premier sujet. Et puis, un autre
donc
thème.
Vous croyez à la nécessité de la réindustrialisation.
J'y crois, et je pense que.
Non, mais je sais, parce que généralement, c'est un point de vue que je défends.
De ce que l'argent public d'une part et privé pouvait être fléché sur les sujets qui ont beaucoup de sens, notamment dans les transitions énergétiques. Il y a vraiment un champ des possibles qui est important. Ça, je pense, c'est un vrai sujet.
C'est le grand argument de ceux qui disent qu'il faut achever l'union des marchés de capitaux.
Voilà, je pense que ça, c'est un vrai point. Et le deuxième, qui est beaucoup plus terre à terre, je trouve, c'est qu'on ne peut pas demander, là, je ne suis pas en train de faire du protectionnisme. On ne peut pas demander à nos amants, l'agriculture française ou l'agroalimentaire, de se soumettre à plein de normes et de passer du point A au point B, qui est le point A, on n'est pas bon, au point B, on est vertueux, sans être accompagné. Et l'accompagnement, il passe par des mesures d'accompagnement en interne sans doute, mais il passe aussi, me semble-t-il, ou alors il faut revoir notre manière d'appréhender les transitions, notamment écologiques, il passe aussi par le fait de ne pas les rendre dépendants d'autres qui auraient une manière de pratiquer différente. Moi, je suis terre à terre. Je veux dire, soit on veut cette transition, il faut l'accompagner chez nous, mais il faut aussi faire en sorte que les gens qui la subissent, entre guillemets, ne soient pas désavantagés. Soit on ne la veut pas, et dans ce cas-là...
Désavantagés, ça veut dire qu'on les subventionne.
Je ne sais pas s'il faut les subventionner, mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a
un sujet. Parce que là, pour l'instant, on vient de mettre sous cloche des quantités de contraintes vertes qui avaient été décidées en Europe pour calmer la...
C'est beaucoup plus complexe que la subvention. Ça pose des questions également, l'état et l'exploitation. Ça pose plein de questions. Parce qu'en fait, le fait d'arriver au point B, qui est le point des vertus en partant du point A, quand on regarde le chemin à prendre, il y a plein de paramètres, peut-être d'aide, peut-être de taille d'exploitation, peut-être de taille d'entreprise également, qui sont importants. Mais surtout, je trouve qu'on ne peut pas accepter de dire qu'on veut ces transitions et accepter une concurrence entre guillemets déloyale de ce point de vue-là. Il faut être cohérent, c'est ce que je dis. Voilà.
C'est du protectionnisme, ce qu'on a fait avec la loi sur la fast fashion, selon vous, Robin Rivaton, ou c'est du bon sens parce que c'est un marché de produits qui traverse la planète, vendu pour une poignée d'euros, avec une empreinte carbone désastreuse?
C'est un modèle économique qui est dysfonctionnel. La meilleure preuve, c'est que
qu'est-ce qui est dysfonctionnel? Le modèle économique des sites de e-commerce chinois?
Oui, le père de la fast fashion s'appelait Wish. Wish valait 10 milliards de dollars il y a 3 ans. Il a été vendu récemment pour 400 millions de dollars. Donc c'est bien la preuve que le modèle n'existe pas. Temu, donc qui est le leader de ce secteur-là, qui est la marque d'un géant chinois du e-commerce, s'appelle Pinduoduo, perd 3 à 4 milliards par an pour commercialiser ses produits en Europe. Donc le marché va finir par se réguler tout seul. La question, c'est quand l'État veut intervenir dans ce sujet-là, qu'est-ce que la fast fashion? À quel moment on définit, c'est un prix, c'est une méthode de production, comme si on avait la vision sur les méthodes de production de ces sites-là? Est-ce qu'on cible deux sites? Et dans ce cas-là, c'est du protectionnisme. Pourquoi pas? Mais il faut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part...
Le problème, c'est que les questions que vous posez sont essentielles, mais il n'y a aucune réponse dans le texte de loi, la proposition de loi de la députée Horizon.
Comme disent les Américains, c'est de la vertu ostentatoire, donc du virtue signaling. On veut s'afficher pour gagner quelque chose, et donc on s'affiche ainsi. Derrière, il n'y a pas de praticité de la loi, quand bien même, en fait, une loi peut parfois être juste et faire du sens. Si elle n'est pas praticable, ça ne sert à rien de la faire. Ça n'a aucune utilité. Autant faire une déclaration politique, c'est bien, mais on ne peut pas faire. Aujourd'hui, on fait des lois qui ne sont pas praticables. Et donc, pour moi, c'est une très mauvaise mesure. Ce marché va s'auto-réguler, encore une fois, puisque l'accès aux capitaux occidentaux, notamment au marché de capitaux, est en train de se tarir pour Pinduoduo, pour Wish, je l'ai dit, pour Shine qui a été interdit de se coter à la bourse de New York et qui va se coter à la bourse de Londres. Donc, on voit bien que les marchés de capitaux sont en train de se tarir. Donc, ce modèle-là, il va disparaître de lui-même. Donc,
si vous voyez ce modèle-là, c'est-à-dire que ces sites-là sont menacés.
Ils perdent 10 euros par commande.
On vous explique qu'aujourd'hui, ils perdent de l'argent pour rentrer dans la vie des gens et devenir tellement incontournables que après, les choses pourront changer.
Bannissons-les sur ce motif-là. Bannissons-les sur le motif qu'ils capturent de la donnée sur les individus et qu'on considère que c'est une donnée qui est stratégique. On m'expliquera pourquoi choisir une paire de chaussures, c'est stratégique, mais disons que c'est une donnée qui est stratégique. Et dans ce cas-là, bannissons-les pour une question de souveraineté. Pas pour dire que c'est de la fast fashion.
Mais c'est vrai que ça ne répond absolument pas à la définition. Enfin, on ne sait pas ce qu'est la fast fashion dans ce texte. On n'a aucun élément de mise en application. Les décrets devront arriver, mais on verra quand même. Et on se dit d'ailleurs qu'il y a des quantités de maisons auxquelles on ne pensait pas au début qui pourraient tomber sous le coup de cette loi et se retrouver pénalisées, notamment des bonnes maisons bien françaises installées chez nous sur le sol.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Robin, parce que notamment les modèles vont s'effondrer tout doucement. Il y a notamment des modèles de marques françaises, je parle de françaises parce qu'on est en France, j'en ai discuté avec eux la semaine dernière, qui notamment vont réinventer des cycles où on va réutiliser, revendre les vêtements, les faire avec des empreintes carbone beaucoup plus faibles. Donc je pense que le modèle qu'il pousse à outrance, qui est finalement de dire ça coûte pas cher, mais en fait c'est du repeat business, qui, au lieu d'en acheter un, on en achète 10 par an, il va s'écrouler assez naturellement, assez vite. Et à l'inverse, je pense qu'on voit émerger des beaux modèles dans lesquels on voit des vêtements fabriqués beaucoup plus de qualité et beaucoup moins de matière, on va dire, non noble, et la capacité effectivement d'en avoir un cycle de vie de ces vêtements qui est multiple. Donc je pense qu'il faut, alors je ne suis pas pour dire qu'il faut laisser le marché faire tout seul, mais je pense que ça va, les capitaux vont se tarir effectivement tout doucement, les gens verront que ce n'est pas un modèle économique durable. Donc,
j'avais jamais entendu cette version effectivement des perspectives pour ces sites de e-commerce. D'ailleurs c'est Nathalie Janson qui réagit. Merci Robin, la fast fashion partira comme beaucoup d'autres épiphénomènes, écrit-elle. On a 3 minutes. Vous étiez au MIPIM à Cannes.
Oui, le.
Alors, il a la casquette nouvelle techno, Robin Rivaton. Il écrit dans l'Express toutes les semaines sur la nouvelle.
Sur la fast fashion, il y a 3 semaines, bon, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, des chroniques hyper pointues, hein. Faut reconnaître, c'est rare que dans la presse généraliste, on se permette ce niveau d'expertise. Et votre autre casquette, bien sûr, c'est toutes les questions de logement, et vous étiez au MIPIM de Cannes. Je me demandais s'il allait se passer des choses sur le logement, parce que pour l'instant, je ne vois rien venir.
Alors le MIPIM, c'est un salon de l'immobilier plutôt commercial, donc oui, le bureau, oui. Le tertiaire, le retail. Ce qui se passe, c'est très simple, hein, c'est que dans beaucoup de pays en Europe, il commence à se faire un repricing, donc les gens acceptent que la valeur des actifs qu'ils détiennent dans leur portefeuille n'est pas celle qu'ils voudront demain.
Il était temps.
Donc, il commence à y avoir des transactions qui s'opèrent, tout simplement parce que des opportunités reviennent sur le marché. Ça, je dirais que ça se passe à peu près partout en Europe, beaucoup aux États-Unis, partout en Europe, sauf en France. Moi, je titrais dans la newsletter que j'écris chaque semaine d'Henri Lestec, qui s'appelle, je titrais ce matin, La Grande Glaciation. Et en France, je crains que nous sommes dans la Grande Glaciation avec beaucoup d'épargne des particuliers qui a été mise sur l'immobilier qui soit gelée, au sens où, en fait, ils peuvent pas la retirer. Donc, personne n'a une pression à liquider ses actifs. Des gens qui se satisfont de ne plus acheter, des immeubles qui se vident, des immeubles de bureaux qui vont se vider, et des collectivités territoriales qui n'ont aucun intérêt à opérer des transformations de ces immeubles. C'est-à-dire que vous pouvez garder des immeubles de bureaux vacants pendant très longtemps. Une collectivité, l'immeuble de bureau, hein, toujours la même chose, paye de la taxe sur les bureaux. Si vous le remplacez par un immeuble résidentiel, vous allez devoir créer des services publics locaux pour les habitants et autres. Et donc, à la fin, juste, on peut vivre dans les 10 prochaines années dans la Grande Glaciation, donc avec 2 millions, 3 millions de mètres carrés vides en Ile-de-France.
Sympa, la Grande Glaciation. On a 1 minute 10, Romain Lemoine.
Je partage ce que dit Robin à un détail près. Je pense qu'il y a un sujet quand même sur la construction des logements neufs, notamment dans le social intermédiaire ou le résidentiel libre, comme on appelle ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le neuf, le sujet qu'on a, c'est que l'ajustement des prix, il se fait par l'évolution des taux d'intérêt, mais à un moment donné où le coût de construction ne permet plus d'absorber la rentabilité que demande l'investisseur, parce qu'in fine, il y a toujours l'investisseur derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gros débat, ou un gros challenge, à mon avis, sur la capacité, alors je ne sais pas si c'est dans le social, dans l'intermédiaire, ou moi, ce que je connais bien, par exemple, dans tout ce qui est résidence santé senior, par exemple, pas les résidences médicalisées, mais tout ce qui permet à des gens de rester vivre proche de là où ils ont toujours vécu, n'est pas finançable aujourd'hui. Parce que le coût de construction fait qu'une fois qu'on a mis tout bout à bout, il n'y a pas de rentabilité pour l'investisseur qui vient en face. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ce coût de construction-là, malheureusement, à part quelques exceptions, il ne va pas revenir en arrière. Donc on a un sujet quand même sur l'ancien, entre guillemets, le bureau, je partage. Sur le neuf et le logement, il y a un petit sujet.
La Grande Glaciation. Waouh. Mais je crains que vous ayez raison. Et puis généralement, en plus, les mouvements de crise dans le logement et l'immobilier, c'est du temps long.
Ah oui. Même si on trouve des solutions, elle prendra des effets que dans 5-6 ans.
Bon, merci Xavier Jaravel. Donc je vous rappelle, Marie Curie habite dans le Morbihan. On en avait parlé au moment de la sortie, publiée au Seuil. Ronan Le Moal et Robin Rivaton